Vous écoutez, on lit pour vous.
Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance? Un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité. Pour l'anthropologue Samuel Vessière, l'humanité s'est développée non pas selon la loi du plus fort, mais en protégeant les plus vulnérables. Or, cette dynamique a évolué vers une culture de la fragilité, qui menace désormais la cohésion sociale partout en Occident. Entrevue. Jamais, à l'échelle de l'histoire de l'Occident, les citoyens n'ont été aussi en sécurité et en santé. Jamais, ils n'ont été aussi à l'abri des guerres, des crimes, des famines, des maladies. Et pourtant, les taux d'anxiété, de dépression et même d'idéation suicidaire sont en croissance, notamment chez les jeunes Canadiens. C'est le paradoxe auquel s'attaque l'anthropologue Samuel Vessière dans son essai « Homo fragilis, aux origines évolutives de la fragilité humaine, FYP, édition 2025 », dont l'édition québécoise est prévue d'ici la fin de l'année. Il pose l'hypothèse que notre époque est marquée par une culture de la fragilité dans laquelle les gens se définissent par leur souffrance plutôt que par leur force, ce qui les amène à revendiquer à grands cris leur statut de victime, qui du patriarcat, qui du féminisme, qui du colonialisme, qui du wokisme. Si bien qu'une compétition entre divers groupes, réclamant chacun plus de reconnaissance et d'accommodement, s'est installée au détriment de la cohésion sociale. Comment sortir de ce crêpage de chignons délétères et retrouver la résilience nécessaire pour affronter les défis collectifs de demain? L'actualité s'est entretenue avec le professeur associé au département de psychologie de l'UQAM et au département d'anthropologie de l'Université McGill. Votre essai s'ouvre sur une thèse originale peu souvent évoquée. Si les humains ont réussi à se développer de manière aussi extraordinaire par rapport aux autres espèces, ce n'est pas grâce à la loi du plus fort, mais en faisant le pari de la fragilité, un atout qui se transforme aujourd'hui en piège, selon vous. En quoi consistait ce pari? Au fil des changements dans son environnement, le corps de l'Homo erectus s'est reconfiguré et sa force physique brute a diminué, ce qui aurait pu mener à sa perte. Mais son crâne s'est élargi, notamment grâce à la cuisson des aliments rendue possible par la domestication du feu il y a 1 million d'années. Cela a entraîné des modifications de l'appareil digestif qui ont permis de consacrer moins d'énergie à la digestion et plus à la réflexion. Or, pour que ces cerveaux plus volumineux puissent passer dans le bassin maternel, il a fallu progressivement que les mères accouchent plus tôt de bébés extrêmement immatures, incapables de survivre sans des soins soutenus sur une longue période. Mais c'est justement cette nécessité pour la collectivité de prendre en charge ces êtres fragiles qui a favorisé le développement de ce qui fait des humains une espèce aussi résiliente. Leur intelligence sociale, axée sur l'interdépendance et sur la transmission des connaissances et des compétences indispensables à la survie. Vous mentionnez aussi le rôle clé joué par un autre groupe vulnérable, les aînés. Oui. En particulier celui des grands-mères, comme l'a démontré l'anthropologue américaine Sarah Hurdy dans les années 2000. L'allongement de la vie des femmes jusqu'à 30-40 ans après leur ménopause était coûteux pour le groupe, puisqu'il fallait protéger ces êtres affaiblis physiquement par l'âge dans des environnements hostiles. Mais c'est beaucoup grâce à elles que l'enseignement de tout un patrimoine d'idées, de récits, d'outils et de solutions pour la survie a pu se perpétuer et continuer de se parfaire. Miser sur l'entraide et l'empathie plutôt que sur la force et le machiavélisme nous a bien servi. Si à certains moments de l'histoire paléolithique, nous avons frôlé l'effacement, aujourd'hui, nous sommes des milliards. Nous avons réussi à coloniser tous les recoins de la planète, des steppes glacées aux déserts brûlants, en passant par les jungles et les plateaux de montagne. Par mon travail de clinicien-chercheur, j'ai pu constater qu'on ne radicalise pas les gens en leur proposant des voitures sport. On leur montre des photos de bébés morts. C'est quand même étonnant que des êtres adoucis soient capables d'être si violents. Notre histoire est une longue suite de conflits sanglants où la loi du plus fort semble avoir prévalu. Paradoxalement, le développement de nos capacités à communiquer et à coopérer a donné naissance à une forme de violence unique à notre espèce qu'on appelle la violence proactive. Contrairement aux autres animaux, qui réagissent avec brutalité à une menace immédiate, une impulsion aussi présente chez l'humain, mais qu'il apprend dès l'enfance à réguler pour maintenir l'ordre social, l'Homo sapiens est capable de planifier les pires cruautés de manière délibérée et de les exécuter collectivement à froid, souvent au nom de la protection des plus faibles, les enfants, les femmes, les aînés. La propagande nazie, par exemple, visait justement à trouver les coupables de la déchéance économique de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, qui s'était soldée pour elle par un échec humiliant. Il y avait cette idée que la famille et la culture allemande étaient victimes du complot juif. Par ailleurs, par mon travail de clinicien-chercheur au réseau Recherche et Action sur les polarisations sociales, RAPS, j'ai pu constater qu'on ne radicalise pas les gens en leur proposant des voitures sport. On leur montre des photos de bébés morts. Vous écoutez « Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance ?» un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité. Selon vous, notre pulsion profonde qui nous pousse à donner des soins et à en susciter se retourne aujourd'hui contre nous. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste? À la fin des années 2010, lorsque j'étais professeur de psychiatrie et co-directeur du programme Culture Mind and Brain, Culture Esprit et Cerveau, à l'Université McGill, fonction que j'ai occupée jusqu'en 2023, certains de mes collègues et moi-même avons commencé à observer une étrange épidémie de mal-être sur les campus universitaires. Les étudiants se sont mis à demander aux enseignants d'émettre des traumavertissements quand le contenu d'un cours ou d'un livre était susceptible de provoquer de la détresse psychologique. Des groupes marginalisés réclamaient aussi de plus en plus d'espace consacré à la validation émotionnelle, safe space, entre les murs de l'université, soit des lieux où toute forme de débat ou de propos jugés menaçants était proscrite. Les revendications identitaires, ethniques, religieuses, sexuelles et les diagnostics de troubles de santé mentale et d'apprentissage se multipliaient en même temps que les exigences d'accommodement en classe. J'ai vu alors se dessiner un nouveau paysage culturel où les récits de victimes et les demandes de soins occupaient désormais le centre du débat public. Demandes auxquelles les institutions, les écoles, l'État s'empressaient de répondre, obéissant ainsi à un réflexe évolutif très profond, le désir de veiller sur les autres. Pensons par exemple aux guides d'écriture inclusive et aux néopronoms dans les signatures de courriel en usage dans diverses organisations. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Les horreurs commises pendant la Deuxième Guerre mondiale ont mené à une prise de conscience collective qu'il fallait lutter pour plus de droits de la personne et nos démocraties ont évolué au fil des cris entendus pour plus d'égalité. Parallèlement à cela, notre culture est devenue de plus en plus individualiste, ce qui a conduit à une atomisation des demandes de soins qui fusent de toutes parts. Je cite souvent dans mon livre la fameuse loi de Moynihan que l'on doit au sénateur démocrate américain Daniel Patrick Moynihan, décédé en 2003. Ce dernier avait postulé que plus les choses vont bien dans une société, plus elles ont l'air d'aller mal. Par exemple, les plaintes pour violation des droits, véritables ou perçus, sont plus nombreuses dans les pays réellement démocratiques où le seuil de ce qui est considéré comme un tort est beaucoup plus bas. Mais cela peut créer un discours collectif qui entraîne la concurrence victimaire. Vous insistez aussi sur les effets insidieux de la contagion sociale et émotionnelle. C'est un phénomène sur lequel j'ai beaucoup travaillé comme chercheur. Plus le discours collectif se concentre sur la souffrance, plus celle-ci semble se propager, à plus forte raison à l'heure des réseaux sociaux. C'est comme si on importait des autres nos ressentis et nos croyances et que ça avait un impact sur le corps. Ça crée une sorte de boucle auto-entretenue où l'attention portée au mal-être finit par le renforcer. Ce processus d'amplification est le fruit d'un biais évolutif de négativité. Pour nous protéger, notre cerveau détecte et amplifie la menace bien plus qu'il ne savoure le bien-être. C'est l'effet nocebo, le jumeau maléfique du placebo. Notre capacité à nous rendre malades est bien plus puissante que notre capacité à guérir. Cela explique peut-être pourquoi, au moment même où le monde n'a jamais été aussi objectivement sécuritaire, le suicide est devenu l'une des principales causes de mortalité prématurée sur la planète, dépassant le nombre annuel de victimes d'homicides, de guerres et de terrorisme, et que la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde, selon les données les plus récentes de l'Organisation mondiale de la santé. Cette dynamique victimaire génère une compétition malsaine entre divers groupes qui se disputent l'attention des soignants comme les enfants d'une fratrie. Quitte à surjouer ou à instrumentaliser leur malheur, souvent inconsciemment, pour qu'on s'occupe davantage d'eux. Quelles sont les répercussions de cette focalisation sur la souffrance? Une société qui reconnaît un groupe surtout pour sa douleur plutôt que pour sa dignité et sa valeur, même avec les intentions les plus bienveillantes du monde, nuit à sa résilience et à son estime de soi collective. C'est une démarche importante en thérapie. Une fois qu'on a reconnu la souffrance véritable d'une personne et l'injustice qu'elle ressent, sans pour autant valider toutes ses théories sur les causes externes de la blessure, on peut mobiliser les ressources internes de cette personne pour qu'elle s'épanouisse. Mais surtout, cette dynamique victimaire génère une compétition malsaine entre divers groupes qui se disputent l'attention des soignants comme les enfants d'une fratrie. Quitte à surjouer ou à instrumentaliser leur malheur, souvent inconsciemment, pour qu'on s'occupe davantage d'eux. Ça nuit beaucoup au vivre ensemble, qui approche, selon moi, du point de bascule en Amérique et en France. Pour s'arroger plus de reconnaissance, les uns et les autres s'accusent de ne pas vraiment souffrir et d'être en outre les artisans mutuels de leur malheur. À droite comme à gauche, du côté des minorités comme de celui de la majorité, chez les hommes comme chez les femmes, tout le monde se sent invalidé, victime de racisme, de l'immigration, du patriarcat, du féminisme. Or, le sentiment de ne pas être perçu positivement dans le regard d'autrui en tant que collectivité, un besoin fondamental, peut mener aux pires violences, car c'est une atteinte à l'amour-propre, à l'honneur. L'une des formes que peut prendre cette violence est la culture du bannissement. Le fait d'éjecter des gens ou des œuvres de l'espace public parce qu'ils jurent avec les sensibilités de l'époque. Vous en avez vous-même fait les frais après avoir invité pour une conférence à l'Université McGill en 2020 un psychologue torontois spécialiste de la dysphorie de genre, Kenneth Zucker. Ce dernier avait été accusé dans le passé de pratiquer des thérapies de conversion pour les gays avant d'être blanchi. Cela vous a coûté le non-renouvellement de votre poste de professeur-chercheur en psychiatrie. Vous êtes cependant toujours professeur associé au département d'anthropologie. Quel regard portez-vous sur cet événement? Ça a été très dur. Mais ça ne m'intéresse pas de me présenter en martyr de la culture du bannissement, surtout après avoir écrit un livre sur la tentation de jouer à la victime. Ça n'aide personne à guérir, ni à se développer, que de constamment demander des réparations et de pointer ses ennemis. Et puis, j'éprouve de l'empathie pour les administrateurs des universités. Ils sont dans une position intenable. Ils essuieront un concert de reproches, peu importe leur décision d'imposer ou non la censure. J'espère surtout contribuer à la dépolarisation. C'est paradoxal qu'une société qui se targue d'être aussi libérale ne tolère plus le débat. Ayant travaillé sur la dépendance aux écrans, je plaide pour une meilleure hygiène de vie numérique dès l'enfance, afin d'amoindrir ce phénomène de contagion sociale évoqué plus tôt. Et aussi, parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à l'autre et nuancés quand ils se rencontrent en personne. Il faut encourager les jeunes à privilégier cette socialisation pour faire naître plus de solidarité. Je souhaite également qu'un éventail plus vaste de personnes soit écouté, notamment celles issues de la majorité. Dans les dernières décennies, nous avons eu le projet aussi noble que nécessaire de faire plus de place aux minorités dans nos démocraties. Mais on l'a fait en remettant fortement en question, voire en pathologisant, la norme, la culture, les traditions de l'ensemble du groupe, avec la complicité d'institutions et de médias bien pensants qui validaient surtout les récits victimaires minoritaires. Pourtant, la norme n'est pas forcément mauvaise, elle est même probablement nécessaire à la cohésion sociale. Et tout le monde a besoin d'avoir des représentations positives de son groupe dans l'espace public, y compris le groupe majoritaire. Le regain d'intérêt des jeunes pour la religion au Québec et ailleurs en Occident est une réaction au désordre de l'hypermodernité. Ils vont épuiser du sens, un sentiment d'appartenance à une communauté, une vision morale du monde, un cadre rituel prévisible pour réguler l'incertitude. Est-il possible qu'un rééquilibrage finisse par s'opérer naturellement après que nous aurons touché les extrêmes du règne de la victime? Absolument. Les générations cherchent toujours à transgresser ce qui avait été mis en place avant elles. Et déjà sur le terrain, j'observe que les membres de la génération Alpha, la cohorte née après 2010, semblent se distancier de certains principes anxiogènes et culpabilisants érigés par les Z et les millénariaux. Par exemple, ils paraissent plus à l'aise avec les identités et les rôles de genre masculin et féminin. Autrement dit, ils sont moins dans le discours queer, polyamour, déconstruit, mais aussi moins dans le discours tradwife et mâle alpha. Je pense également que le regain d'intérêt des jeunes pour la religion au Québec et ailleurs en Occident est une réaction au désordre de l'hypermodernité, ce qui n'est pas sans faire réagir leurs aînés d'ailleurs qui s'étaient détournés de l'Église. Ils vont épuiser du sens, un sentiment d'appartenance à une communauté, une vision morale du monde, un cadre rituel prévisible pour réguler l'incertitude. J'espère dans tous les cas un rééquilibrage non pas régressif ou nostalgique, mais axé sur la complémentarité et la compréhension entre conservateurs et progressistes, jeunes et vieux, hommes et femmes. J'ai moi-même dû faire un cheminement en ce sens. J'ai beaucoup voyagé durant mon enfance bourgeoise et privilégiée, et je me suis souvent félicité de mon cosmopolitisme, de mon ouverture à la diversité. J'avais l'impression d'être dépositaire des vraies bonnes valeurs, contrairement aux plus carriérés. Mais j'ai fini par réaliser la violence de ma posture. Mes propres valeurs ne conviennent pas à tout le monde. Beaucoup de gens ont besoin d'enracinement, d'être fiers de leur patrimoine, et ça commande aussi le respect. C'était « Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance ?» un texte de Marie-Hélène Proulx, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité.
La peur et la peine des années plus tard. Une chronique de José Boileau, publiée dans la presse du 19 décembre 2025. Des fusillades, encore, dans des lieux qu'on n'associe pas à la guerre. Une université à Providence, aux États-Unis, et une plage à Sydney, en Australie. On compte les morts et les blessés, mais qui peut estimer l'ensemble des gens atteints? C'est ce qui m'avait le plus frappé en écrivant l'ouvrage, ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes, publié aux éditions La Presse, qui commémorait le 30e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. L'esprit humain est si déroutant. Des drames éminemment publics se caractérisent aussi par le long silence de gens qui y ont été mêlés de près. Nos sociétés sont pourtant de plus en plus conscientes du choc post-traumatique. Mais nous sommes tellement pris par le moment présent, le soutien psychologique est d'ailleurs offert sur le coup, pas des années après, et tellement étourdis par les confessions qui inondent les médias et les réseaux sociaux, qu'on a toujours du mal à concevoir que certains choisissent de se taire. Mais derrière chaque personne qui prend la parole sitôt après un attentat, il y a toute une file d'anonymes qui garderont pour eux la peur vécue, le choc ressenti, le tournant d'avoir fui ou figé et même l'aide qu'ils auront réussi à donner. Pour Polytechnique, chaque nouvelle histoire recueillie 30 ans plus tard me donnait l'impression de lever le voile sur une part d'intimité qui s'exprime difficilement. Nous restons bien petits devant une situation d'exception, et qui a envie de se présenter petit face aux autres. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser écraser par les gestes d'éclat qui retiennent l'attention. À Sydney, Ahmed Al-Ahmed est maintenant considéré comme un héros pour avoir réussi à désarmer l'un des deux auteurs de la fusillade de la plage de Bondi. Il a néanmoins été blessé par des tirs. Un couple a aussi tenté de s'en prendre à un assaillant et cela leur a coûté la vie. De la même manière, Reuven Morrison, un grand-père de 62 ans, est mort sous les balles alors qu'il tentait de stopper les tireurs en leur lançant des objets. Ses réactions instinctives sont remarquables, mais elles ne peuvent pas être l'aune à laquelle se mesurer. La fuite est aussi un réflexe de survie, surtout devant l'incompréhensible comme à Bondi. La vidéo qui fait voir les 10 minutes de la fusillade est hallucinante. Les assaillants tirent calmement et méthodiquement 103 balles comme s'ils étaient à un stand de fête foraine, nullement perturbés par le hurlement des sirènes des voitures de police qui approchent. On n'arrête pas des gens de ce genre par simple bonne volonté. C'est d'ailleurs ce que nombre d'entre nous avons eu envie de dire à Stéphane Gay quand il s'est confié à Rima El-Khoury. il était présent dans la première classe où le tueur était entré à Poli le 6 décembre 1989. Depuis, il a porté seul le remords, persuadé qu'il aurait pu arrêter celui-ci avant qu'il ne se lance dans son féminicide. Il est pourtant déjà énorme de simplement faire ce que l'on peut, et Stéphane Gay a été le premier à appeler le 911. Chaque tragédie recèle de telles réactions de soutien. À Bondy, Saya, une adolescente de 14 ans, a ainsi répondu sans hésiter à l'appel d'une mère. Cachée sous un banc, elle en est sortie pour aller couvrir de son corps deux jeunes enfants. Ce faisant, elle a reçu une balle dans la jambe, mais les petits ont été sauvés. Mais parfois, même cette entraide reste discrète. Je pense ici au témoignage inédit d'une jeune femme lors du 10e anniversaire de l'attentat du Bataclan à Paris, souligné le mois dernier. Pour fuir la salle de spectacle, Charlotte, qui refuse de donner son nom de famille, s'était accrochée à une fenêtre au perché. À deux doigts de glisser, elle a demandé de l'aide. « S'il vous plaît, je suis enceinte. » Et une main, celle de Sébastien, l'a miraculeusement agrippée. Ils ont ainsi survécu à la chute possible, puis à la prise d'otage, à laquelle ils n'ont pu échapper. Mais il leur a fallu 10 ans pour en parler. Cela me ramène à ce témoignage diffusé lors du 30e anniversaire du féminicide de Polytechnique. En entendant les tirs, un responsable de la salle des serveurs avait caché une dizaine de personnes sous un faux plancher, tous se faufilant entre le filage des ordinateurs. Situation, dans ces circonstances-là, ça rentre, a expliqué Guy Brunel des décennies après les faits dans un témoignage recueilli pour « Ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes ». Il n'avait jamais parlé de son histoire. Que valait-elle face à un grand malheur? Sa valeur, c'est de faire contrepoids à l'horreur. Mais sans doute faut-il du recul pour accepter que la peur et la peine personnelle font partie de notre humanité commune et peuvent se partager. Fin de ce texte de José Boileau titré « La peur et la peine des années plus tard ». Publié dans la presse du 19 décembre 2025.